Bien, je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, on étudie le livre de 1 Samuel. On est encore au début, on est au chapitre 2. Et jusqu'à maintenant, l'attention a été portée surtout sur le personnage de Anne. Anne qui était stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et ça lui causait beaucoup de, non seulement du chagrin, mais des préjudices. Elle en souffrait de cela. Et elle s'est confiée à Dieu, non seulement pour exprimer sa tristesse, mais aussi pour lui demander de l'exaucer, de lui accorder un enfant. Donc, on voit la foi de Anne, et elle a même, à l'avance, conclu comme un vœu, un pacte avec l'Éternel. Elle dit, si tu me donnes un fils, il sera toute sa vie consacré au service à la maison de Dieu, au tabernacle. Et Dieu l'a exaucé. Il lui a accordé un fils, et elle a tenu parole, Anne. Et Dieu a fait en sorte aussi que son mari, Elkanah, était d'accord avec cela. Donc, Elkanah était aussi un homme pieux, qui craignait Dieu. Et ils ont observé le vœu que Anne avait fait. Ils ont conduit Samuel, le bébé Samuel. Ben, c'est après qu'il soit sevré, donc il avait peut-être 3 ans, lorsqu'il a été conduit à la maison de l'Éternel. Et à ce moment-là, Anne s'est exprimée par un chant magnifique en l'honneur de Dieu. C'est vraiment un chant à l'honneur de Dieu, à l'honneur de la souveraineté de Dieu qui contrôle les événements. Et elle l'a reconnu dans sa propre vie, mais elle en parle aussi d'une manière générale. Il est souverain non seulement sur la vie individuelle de chaque personne sur Terre, mais il contrôle aussi les nations. En tant que Dieu souverain, il peut même renverser les situations qui lui semblent irréversibles. Il peut abaisser ceux qui se sont élevés par orgueil. Il peut élever ceux qui ont été humiliés et qui se confient en lui. Il va même... Même Anne agit comme une prophétesse, elle annonce même la venue d'un roi en Israël. Et à cette époque, il n'y avait pas encore de roi. Elle parle du Messie de Dieu. Donc, elle souligne vraiment la souveraineté et la puissance de Dieu, son amour, sa compassion. Et cet honneur-là qui est rendu à Dieu contraste beaucoup avec la suite du chapitre 2, où Dieu, finalement, subit le déshonneur. Et le contraste est frappant. Mais même dans le passage qu'on va étudier, il y a aussi un contraste qui est mis de l'avant. On peut dire sous 3 aspects. D'abord, ce qui est mis en contraste, c'est les comportements. Les comportements qui sont bons, les comportements qui sont clairement mauvais et qui déshonorent Dieu. Ensuite, on voit un contraste entre les jugements qui sont faits de ces comportements-là, les évaluations, les appréciations. Il y a clairement des comportements qui sont condamnables, alors que d'autres sont dignes de louange. Puis troisièmement, le contraste est mis entre les bonnes conséquences et les mauvaises conséquences. C'est bon? Donc, il y a un contraste au niveau des comportements, au niveau des jugements de ces comportements-là, et finalement au niveau des conséquences qui s'en suivent. Et bien sûr, tout est cohérent, parce que Dieu est souverain. Donc, lisons la première partie du passage qu'on étudie aujourd'hui, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Samuel 2, 12. Donc, on se situe après que Elkanah et Anne ont conduit l'enfant Samuel. Anne a prié, elle a fait son chant, et ils sont repartis à la maison, Elkanah et Anne, en laissant Samuel auprès du sacrificateur Élie, pour qu'il soit formé au service. C'est bon, 1 Samuel 2, 12, on va lire jusqu'à 21. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Là, il y a peut-être d'autres traductions, ça dépend de... Il y a plusieurs mots qui sont utilisés, mais vaurien, c'est un bon qualificatif. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à 3 dents à la main, et il piquait dans la cuve ou le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux qui venaient là à Silo. Et même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait, « Non, on fera d'abord brûler la graisse et tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu le donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Et elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, le texte commence par décrire les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, d'une manière assez sévère, si on peut dire. Ce sont des vauriens. Je ne sais pas si c'est un mot que vous êtes habitué d'utiliser. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur morale, de sens moral. Sur le plan de la moralité, ce qu'ils font ne vaut rien. Puis finalement, eux-mêmes se retrouvent à être vains. Ce qu'ils produisent, ce ne sont que des vanités. On pourrait aussi traduire qu'ils étaient pervers, corrompus, méchants, mal intentionnés, de mauvaise foi. En réalité, officiellement, ils servaient Dieu au temple. Ils étaient en position honorifique là, de servir l'Éternel au rite sacré d'offrir des sacrifices. Mais la réalité, c'est qu'ils servaient leur propre ventre. Ils abusaient de leur pouvoir aux dépens du peuple. Ils ne se souciaient même pas de suivre les procédures établies par la loi. Donc, c'était des sacrifices offerts à Dieu. Et pourtant, ils ne se souciaient même pas de savoir comment on devait offrir les sacrifices à Dieu. Il y a plusieurs types de sacrifices que le peuple offrait dans l'Ancien Testament, mais le sacrifice dont il est question ici, c'est surtout le sacrifice qu'on appelle de communion ou d'action de grâce. Donc, les gens d'une famille venaient et ils offraient un sacrifice, puis ils mangeaient de ce sacrifice-là. Donc, ce n'était pas comme un holocauste qui était brûlé entièrement. C'était un sacrifice que l'animal était mis à mort, et la famille le mangeait vraiment dans un esprit de fête, de joie, de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Donc, le mot communion est bon aussi, là, c'est vraiment en communion avec Dieu. Donc, ça exprimait la relation avec Dieu. En mangeant ce repas-là, on déclarait, dans le fond, qu'on était content que l'Éternel était notre Dieu et qu'on était fiers d'être son peuple. Donc, c'était vraiment un temps de communion père-fils, si je peux dire, avec Dieu, un temps important. Et dans ce temps-là, il y a une part qui était... la graisse était brûlée sur l'autel et le sang, puis il y a une portion qui était gardée pour les sacrificateurs, qui était donnée aux sacrificateurs. Donc, eux, ils se nourrissaient, finalement, d'une part des sacrifices. On lit ça dans Lévitique 7, c'est mentionné à plusieurs endroits, mais dans Lévitique 7, 28, l'Éternel parla à Moïse, et il dit « Parle aux Israélites, et dis-leur, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de communion ou d'action de grâce, apportera son oblation à l'Éternel, prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, il apportera avec la poitrine, et la poitrine pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel. » Donc, c'est comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils, donc pour les sacrificateurs. Et dans vos sacrifices de communion, vous donnerez au sacrificateur la cuisse droite en la prélevant. Donc celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car je prends, c'est Dieu qui parle, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle de la part des Israélites. Mais les fils d'Élie, contrairement à ce que la loi prescrivait, ils utilisaient une sorte de grande fourchette à 3 dents, un trident. Il y a des archéologues qui en ont retrouvé dans ce coin-là de la terre, là, qui servaient à l'époque à des rites religieux, peut-être pas en Israël, mais ils s'étaient peut-être inspirés de ça. Des grandes fourchettes, ça pouvait même mesurer 1 mètre de long, là, avec des grandes dents, là. Il plantait ça dans le chaudron, et il disait « Ah, et tout ce qui ressort m'appartient. » C'est comme s'il se livrait à la volonté de Dieu, au sort. Mais c'est vraiment pas ça que Dieu avait prescrit. Puis forcément, ils en retiraient plus qu'une poitrine ou la cuisse droite. Donc, c'était vraiment de l'abus. Puis même, c'était probablement trop que ce qu'ils ils avaient besoin de manger, puis peut-être qu'ils en, ils en revendaient, ils en profitaient pour s'enrichir. Donc, les fils d'Élie, finalement, prenaient bien plus que ce qu'ils étaient censés prendre. Et pourquoi c'était dans un chaudron? C'est parce que la viande bouillait, elle cuisait, puis le gras se séparait. Puis la graisse n'était pas consommée. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on voit qu'il y avait des conflits avec ceux qui venaient offrir un sacrifice. Ils voulaient résister à la demande à l'exigence des sacrificateurs. Ils disaient, non, tu vas attendre qu'on la fasse cuire. Eux, ils disaient, non, donne-nous-la tout de suite crue. Avec la graisse, parce qu'ils voulaient la rôtir. Ils voulaient se faire un barbecue. C'est meilleur. Ça aussi, c'était contraire à la volonté de Dieu. Et même Dieu en a parlé de manière très sévère dans Lévitique 7, toujours dans quelques versets avant. Il dit, parle aux Israélites et dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devrez pas en manger. En effet, quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices, consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. C'est à croire que Ophni et Phinéas n'avaient pas lu ce passage-là. C'est intéressant de voir que nous sommes loin de ce contexte historique-là. Aujourd'hui, on n'offre pas des sacrifices, mais il y a un principe qui demeure dans l'Église, au sein du peuple de Dieu, que les ministres du culte, les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les missionnaires, soient dans un sens nourris par le peuple de Dieu. Que leur subsistance soit, que leur salaire finalement soit versé par le peuple de Dieu, par les offrandes volontaires. On lit dans 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. » Donc, quand c'est possible qu'ils ne soient pas obligés d'avoir un double emploi, quand c'est possible qu'ils puissent se concentrer à temps plein à l'Évangile, à la prédication. 1 Timothée 5 dit « Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent la peine à la prédication et à l'enseignement. » Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Pendant que le bœuf est en train de fouler le grain, s'il a faim, tu vas le laisser manger. Tu ne vas pas lui mettre une muselière pour éviter qu'il mange les grains. Donc, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est encore vrai dans le contexte du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance dans l'Église, que les ministres du culte vont être nourris par le peuple, si on peut dire. Par contre, c'est encore vrai aussi qu'il ne devrait y avoir aucun abus. Ça, Dieu a ça en horreur. Aucune personne servant Dieu à temps plein ne devrait abuser de cela, de son pouvoir. Ça devrait être même tolérance zéro. Les pasteurs ne doivent pas être des hommes qui cherchent à profiter de leur position pour un gain personnel. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Bon, en tout cas, souvent. On dirait que c'est un phénomène qui est quand même assez répandu. C'est même parfois mis en vedette, là. Plus notre pasteur va être riche, plus c'est un signe de prospérité. Mais on se rend compte souvent dans ces églises-là que c'est seulement le pasteur qui est riche. Et d'autres vont souffrir de la faim. 1 Pierre 5 dit, en s'adressant aux pasteurs, aux anciens, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, donc un gain qui est poussé par l'avarice, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, donc pas de manipulation pour essayer de contrôler pour en retirer un gain, soit monétaire, soit de pouvoir, de jouissance quelconque, mais en devenant les modèles du troupeau. Donc, en étant les exemples à suivre, finalement. Ici, on voit que les fils d'Élie ne rencontrent pas ces critères-là, loin de là. Les péchés des fils d'Élie étaient très grands devant Dieu parce que ils bafouaient les sacrifices, les procédures même que Dieu avait établies dans la loi. C'est comme s'ils prenaient la loi de Dieu et ils la foulaient aux pieds. Ils crachaient dessus. On comprend que Dieu était en colère. Ici, le contraste avec Samuel, avec la famille de Samuel, c'est frappant, même s'il y a peu de détails qui sont donnés. Mais l'auteur ici alterne entre le portrait négatif de la famille d'Élie et le portrait positif de la famille de Samuel. Elkana et Anne ont volontairement consacré leur fils au service au temple et gratuitement. On ne voit pas qu'ils ont reçu un salaire pour ça. Même au contraire, ils ont continué à contribuer. Anne confectionnait une robe, j'imagine, parce que Samuel grandissait. Elle allait régulièrement lui porter de nouveaux vêtements. Donc, elle continuait à prendre soin de lui. Et même si Samuel, au début, était tout petit, c'est indiqué qu'il servait devant l'Éternel. Il ne se servait pas lui-même. Il semble avoir bon cœur déjà même dans son enfance. Et c'est indiqué au verset 21 qu'il grandissait devant l'Éternel. Donc, sous le regard de Dieu, auprès de Dieu, il grandissait. Il portait un éphod de lin, donc un habit, il n'y a pas une grande description ici, mais un habit typique d'un prêtre. Mais en même temps, un habit très humble, un simple éphod de lin. Et alors que Élie et ses fils s'enrichissaient sur le dos du peuple, mais les parents de Samuel, eux, ont offert leur fils gratuitement. Et Dieu les a bénis. Même il s'est servi de Élie pour proclamer cette bénédiction-là. Et il a donné à Elkana et Anne 5 autres enfants. Donc il a fait leur joie. Et on doit se souvenir que Anne était stérile pendant bien des années. Donc non seulement Dieu a permis le miracle qu'elle puisse avoir un fils, il a continué à lui en donner encore 5 autres. Donc c'était une famille qui plaisait à Dieu. Ça nous amène justement au deuxième point de contraste qu'on voit, c'est l'appréciation de ces comportements-là, le jugement qui en est fait. Continuons à en lire à partir du verset 22. Ouais, toujours 1 Samuel 2, à partir du verset 22. Élie était fort âgé, il était rendu très vieux. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Donc, on a vu un grand contraste au niveau des attitudes, des comportements des deux familles, mais on voit que l'évaluation qui en est faite aussi contraste la manière dont ils sont jugés. Élie a, ça dit qu'il était rendu âgé, puis il a appris le comportement de ses fils. Il en a été choqué, il leur a parlé. Mais ce petit détail-là, que Élie était rendu très âgé au moment où il l'a appris, il me semble que juste ce point-là suffit à montrer que l'attitude d'Élie était condamnable. Moi, ça se fait qu'il a attendu aussi longtemps que ça. Pourquoi il n'a pas pris connaissance avant de comment ça se passait, les sacrifices au tabernacle? Pourquoi il n'a pas posé la question, il n'a pas été vérifié par lui-même si les procédures étaient suivies? Comment ça se fait qu'il ne connaissait pas l'état spirituel de ses fils? Comment ça se fait qu'il ne savait pas jusqu'à ce moment-là qu'ils avaient sombré dans le péché et qu'ils entraînaient le peuple à pécher? Ça l'a choqué, mais on voit, je pense, une grande négligence de sa part. Et qu'il intervient, finalement, trop tard. Et il apprend à ce moment-là, non seulement que les sacrifices de l'Éternel sont bafoués, sont méprisés, mais en plus, ils vont coucher avec les femmes qui s'assemblent à l'entrée de la tente, donc à l'entrée du tabernacle. Ici, il n'y a pas de détail qui est donné sur ces femmes-là, mais il semble, quand on étudie d'autres passages, comme dans Exode, que des femmes étaient employées, si on peut dire, par le temple, à l'époque, le tabernacle, peut-être, entre autres, pour faire l'entretien, s'assurer des lieux, l'entretien, mais aussi pour garder les lieux pendant la nuit. C'est un rôle qu'on ne connaît pas trop, mais il semble que pendant la nuit, un groupe de femmes était là, il y avait un feu de camp, peut-être, là, puis elles surveillaient, elles veillaient qu'il n'y ait pas d'intrusion, que les lieux allaient être gardés purs. Elles étaient des sentinelles, si on peut dire. Donc, nos sœurs qui prient le samedi matin, elles n'ont pas inventé ce rôle-là. Donc, c'est une tâche très importante, là. Mais les deux fils allaient voir ces femmes-là de nuit, j'imagine qu'ils passaient du temps avec elles, puis finalement, ils allaient dans un coin, puis ils couchaient avec elles. Ils venaient souiller, finalement, leur bon service. On ne sait pas s'ils les prenaient de force ou pas, mais eux-mêmes, en tout cas, on ne sait pas non plus si Ophni et Phinéas étaient mariés, si en plus c'était de l'adultère. Mais ça se pourrait, là, qu'ils avaient déjà des familles établies, parce que c'est assez loin dans l'histoire. Élie approche de la mort, il est rendu très âgé. Donc, Élie, finalement, leur montre que leur comportement est mauvais. Il dit franchement à ses fils que non seulement lui, il trouve que ce qu'ils font n'est pas bon, mais tout le peuple même en parle. Donc, il y en a qui sont allés se plaindre à Élie, Il dit là, c'est la vie de tous, là. Vous avez un très mauvais témoignage. Ce que vous faites est mauvais. Donc, vous déshonorez votre tâche, votre vocation. Puis, la gravité de leur faute est encore plus élevée du fait que, non seulement ils pêchent, mais ils entraînent le peuple à pécher. Ils disent, vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Puisqu'ils sont, ils sont devant, ils sont vus, justement, ils devraient être des modèles à suivre. Ils entraînent le peuple à pécher. Peut-être contre leur gré, mais peut-être aussi même qu'ils réussissent à en séduire quelques-uns, puis finalement, ils corrompent le peuple. C'est le lieu du tabernacle, et à cette époque-là, c'était Silo, c'était censé être le lieu le plus saint dans le pays. Quand on s'approchait du tabernacle, on devait se purifier. Et quand on arrivait proche du parvis, c'était un lieu considéré plus saint. Il y avait même certaines conditions qui pouvaient te disqualifier, tu ne pouvais pas t'approcher. Quand on était vraiment dans le parvis au service, là où il y avait les sacrifices, on devait être pur. Et ceux qui entraient dans le tabernacle devaient être saints aussi. Puis on sait qu'il y avait en plus la section à l'arrière, le lieu très saint que seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer. Donc il y avait un principe là que Dieu voulait que sa présence se manifestait au-dessus de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Et l'idée, c'était que plus on s'approchait de lui, plus on devait être saint. Mais là, c'était justement le siège de la corruption en Israël. Ça n'a pas de bon sens. On comprend la colère de Dieu. Ce qui ajoute à la gravité aussi, ce que Élie dit à ses deux fils, c'est que non seulement vous péchez contre des hommes, contre le peuple, mais vous péchez contre Dieu directement. C'est vrai, si vous avez déjà lu toute la Bible révèle progressivement les vérités, les doctrines, on apprend que finalement, tout péché est contre Dieu. En bout de ligne, là, lorsqu'on pêche contre un homme, contre une femme, on est en train de pécher contre le Créateur qui l'a créé à son image. Lorsqu'on commet une mauvaise action, même si on est seul, ce qui est considéré mauvais, c'est parce qu'on est en train d'enfreindre la volonté de Dieu, la morale de Dieu, la moralité de Dieu. Donc, tout péché, finalement, en bout de ligne, est contre Dieu. Mais il y a quand même des péchés qui sont indirectement contre Dieu. Mais celui qui est en position de servir Dieu, servir le peuple de Dieu, d'être même représentant de Dieu devant le peuple, lorsqu'il pêche, il pêche directement contre Dieu. Ça ajoute à la gravité de sa faute, on peut dire. Jacques 3:1 nous met en garde, même dans le Nouveau Testament, il dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, donc des enseignants du peuple de Dieu. » Pourquoi? Il dit, « Mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Et Élie rappelle à ses fils que lorsqu'on pêche contre un homme, Dieu agit dans un sens comme un juge entre l'offenseur et l'offensé. Et même comme un avocat, comme arbitre, comme médiateur. Mais lorsqu'on pêche contre Dieu, qui va servir de médiateur? Et Job, même, là, dans sa réflexion, il l'a mentionné, on lit dans Job 9, 33, en parlant à Dieu, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui poserait la main sur nous deux. » Donc, il se sentait dépourvu. « Qui va me défendre devant Dieu? » Il n'y a personne. Mais maintenant, il y a quelqu'un. Il y a un médiateur. Et c'est la beauté de la révélation de la Bible, c'est qu'un médiateur est venu. Donc, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on voit la tension qui est là. Qui va agir de médiateur entre nous et Dieu? Et le Nouveau Testament le révèle. Dans 1 Timothée 2, on lit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. » Bon, ça sous-entend que tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Tous sont sous sa colère, parce que tous ont finalement péché contre lui. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. » Il a payé de sa vie, finalement, pour nos fautes. Et c'est de cette manière-là qu'il peut nous défendre. Jésus ne va pas nous défendre devant Dieu en disant, devant Dieu le Père en disant, « Non, il n'a pas fait de mal en réalité, ou ce qu'il a fait, ce n'est pas très grave. » Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il va nous défendre. Il va nous défendre en reconnaissant, oui, qu'on a péché, mais en disant, « J'ai payé pour lui. » Il croit en moi. Il a mis sa confiance en moi, et j'ai déjà payé sa dette. C'est de cette manière-là qu'il nous défend. C'est pour ça que c'est de la plus haute importance, c'est crucial qu'on soit en règle avec Dieu, qu'on ait ce médiateur-là. Si on n'a pas ce médiateur-là, À la fin, au jour du jugement, on va affronter le seul juge et on va être reconnu coupable. On doit avoir ce défenseur-là qui plaide notre cause et qui dit au Père Céleste, j'ai payé pour eux, j'ai payé pour ses péchés. J'espère que Jésus est votre médiateur. Sinon, tout ce que ça prend comme condition, c'est que vous mettez votre foi en Jésus. Vous devez croire en Jésus. Croire qu'il est mort pour vos péchés et que son sacrifice suffit. Plus besoin aujourd'hui d'offrir des animaux pour payer notre dette. Le sacrifice de Jésus couvre tous les péchés de ceux qui croient en lui. Mais ça prend une déclaration, une confession, une décision. On ouvre la porte à ce que Jésus vienne dans notre vie. On lui donne notre vie. Ça prend ce que la Bible appelle une conversion, une repentance, un changement de vie, où on fait de Jésus notre médiateur et notre chef, notre Seigneur dans notre vie. Les fils d'Élie, malheureusement, n'ont pas tenu compte des avertissements de leur père. Ils ne se sont pas repentis. Puis, le narrateur ici, probablement c'est Samuel, ajoute que c'était aussi la volonté de Dieu. Dieu, dans un sens, Dieu a endurci leur cœur pour qu'ils ne se repentent pas. Ils sont pleinement responsables de ne pas s'être repentis, mais Dieu est arrivé au point où il a dit, ils sont coupables. La sentence était déjà déterminée. Ils étaient déjà jugés. Et il n'y avait plus de place à la repentance. Dans notre contexte, aujourd'hui, ça arrive lorsqu'un être humain meurt. On dit qu'après la mort, là, vient le jugement. Il n'y a pas une autre occasion de se repentir. C'est terminé. Mais pour Ophni Phinéas, ce jour-là, c'était terminé. Dieu a endurci leur cœur. Ils ne se sont pas repentis. Et le verdict qui était tombé, c'était coupable. La sentence, c'était la mort. Pour Samuel, c'est tout le contraire. Et il y a une seule phrase qui est dit, mais ça résume bien. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Samuel, plus qu'il grandissait, plus que les gens apprenaient à le connaître, ce qui plaisait à Dieu plaisait aussi à ceux qui le connaissaient. Ça vous fait penser à qui, ça? Quelqu'un qui a grandi, puis à Jésus. Samuel, dans ce sens-là, est un précurseur de Jésus, un type. On lit dans Luc 2, en parlant de Jésus, qui, lorsqu'il était petit, il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est la manière habituelle de Dieu de faire, et c'est encore vrai dans l'Église, que Dieu fait en sorte qu'un comportement qui lui est agréable va être agréable aux frères et sœurs. Va même être agréable aux non-croyants en dehors de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il va être épargné de la persécution, mais son bon comportement va être agréable même à son ennemi. Il va être forcé de le reconnaître. Et c'est d'ailleurs un critère pour être un ancien de l'Église. Ça doit être un exemple dans ce sens-là. Pardon. Un premier critère, c'est qu'il soit irréprochable, c'est-à-dire aux yeux des frères et sœurs. Il n'y a pas quelque chose de scandaleux dans sa vie. Il ne va pas coucher avec les filles qui s'attroupent. Donc, il n'y a rien de scandaleux, il est irréprochable, mais aussi, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit, dans les pièges du diable. Donc, qu'il ait suffisamment grandi en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et les hommes. Donc, on voit que Dieu est souverain, mais il n'est pas un Dieu lointain. Il voit nos vies, et il y a des actions que l'on fait qui lui sont agréables, et il y en a d'autres qui lui sont désagréables. Donc, c'est un contraste qui est frappant ici. Un autre contraste, c'est au niveau des conséquences. Et on va terminer la lecture ici, verset 27, toujours dans 1 Samuel 2. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Eh bien, c'est pourquoi, par conséquent, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, J'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité, mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai la vigueur, ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure au milieu de tout le bien qui sera fait à la maison d'Israël. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas auprès de mon autel afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon Messie, mon oin. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent ou une miche de pain. Il dira, « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Donc, les conséquences sont très différentes pour ceux qui sont agréables à Dieu que pour ceux qui sont désagréables à Dieu. Donc, c'est un homme de Dieu qui vient voir Élie. C'est une expression, on l'a vu ce matin dans le cours d'Ancien Testament. Un homme de Dieu, c'est une expression qui signifie un prophète. Élie a été appelé comme ça, Élisée aussi. Donc, Dieu envoie son prophète, son messager, et c'est comme si c'est Dieu qui parle. Pardon. D'ailleurs, le messager, le prophète, parle même au « je ». Il prend la première personne, là. C'est Dieu qui parle. Et il informe Élie des conséquences de ses péchés. Puis là, on comprend, même encore d'une manière plus riche, la nature des péchés qu'il a commis. D'abord, c'est de l'ingratitude. Ils sont ingrats envers Dieu. Un manque de reconnaissance à Dieu pour l'immense privilège qui leur a été fait. Même Dieu rappelle, vous étiez avant la propriété de Pharaon. Je vous ai libéré, là. Et dans le peuple d'Israël que j'ai libéré, j'ai choisi la tribu de Lévi pour être à mon service. Et j'ai choisi même la famille d'Aaron pour être sacrificateur au tabernacle et plus tard au temple. Et Élie était un descendant d'Aaron. Donc, un grand privilège. Mais il dit, vous agissez de manière ingrate, sans aucune reconnaissance envers Dieu. C'est aussi, le péché, un mépris de la loi de Dieu, comme s'il regardait ça comme de la boue. Et ça déshonore non seulement la loi, ça déshonore Dieu. Il déshonore leur Créateur, le Dieu d'Israël, et il le déshonore devant tout le peuple. C'est comme fouler aux pieds, comme on disait tantôt, la loi de Dieu. Et la faute d'Élie, en plus, quelque chose de profond ici, c'est qu'il a traité ses deux fils, même s'il savait que leur comportement était mauvais, même lorsqu'il a dénoncé le péché, il les a finalement traités avec plus d'honneur que Dieu. Oui, il les a désapprouvés, mais il les a laissés en poste. La loi disait même qu'un homme dans le peuple qui allait agir de manière, qui allait contrevenir à la procédure sacrée là, pour offrir le sacrifice, devait être retranché du peuple. C'est d'autant plus vrai pour un sacrificateur. Mais Élie a comme fermé les yeux là-dessus. Ah, ils sont mauvais. Et finalement, il n'a rien fait pour sauvegarder la position de ses fils et continuer d'être engraissé par le fait même. On apprend plus loin qu'il était rendu très gras. Au chapitre suivant, je pense. Donc, littéralement, il s'est engraissé. Mais il a fermé les yeux et ça a fait en sorte de déshonorer Dieu. Donc, malheureusement, sa nonchalance, sa paresse à l'égard de Dieu, il l'a transmise à ses fils, qui sont devenus pires que lui. Des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Wow, c'est un jugement sévère, là. Ils étaient les sacrificateurs de l'Éternel, et le texte dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Pas de relation avec lui. Tout était superficiel. C'était fake, du théâtre. Et même du mauvais théâtre. C'est toute une exhortation pour ceux d'entre nous qui sommes parents. Vous êtes d'accord? On a une responsabilité. On lit dans Éphésiens 6, « Vous, pères et mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, donc les élevez, en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Donc, en agissant, en prenant les mesures qu'il faut. Et Normalement, c'est ce qu'on remarque, c'est que des parents nonchalants qui négligent ça, que c'est pas plus important qu'il faut, vont transmettre cette nonchalance-là à leurs enfants. Et s'ils ont un comportement qui semble hypocrite, leurs enfants, même souvent, ne vont pas être hypocrites, ils vont tout simplement cesser de venir à l'Église, ils vont tout abandonner. Vraiment, comme le sacrificateur est mis en exemple pour le peuple, les parents sont des exemples pour leurs enfants. Et ils vont transmettre ce qu'ils ont dans le cœur. C'est un avertissement aussi pour chacun de nous, même si on n'est pas parent, on peut arriver dans une situation tout à coup où ce qu'on voit que un membre de notre famille, un ami, est clairement dans une situation de péché et que ça vient corrompre même l'Église. C'est là qu'on est devant un test. Est-ce qu'on va couvrir les fautes, mettre ça sous le tapis parce que c'est quelqu'un de la famille, ou c'est un bon ami, ou on va confronter et accepter les mesures qui vont avec. La procédure que Jésus nous demande de faire, même d'aller voir un frère qui a péché, pour l'amener à se repentir, et s'il ne se repent pas, d'aller avec deux personnes, et s'il ne se repent pas, même de le dire à l'Église, c'est pas facile. Habituellement, un frère qu'on a vu pécher, c'est quelqu'un qui est à proximité, qu'on connaît. Le défi est grand, mais l'enjeu est grand. Est-ce qu'on va honorer la personne ou on va honorer Dieu? Parfois, si on honore la personne, on veut la protéger. On déshonore Dieu, on fait du mal à l'Église. Et Dieu rappelle ici le principe qui est solennel. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. À cause de cela, il dit, merci. À cause de cela, la promesse qui a été faite à la maison d'Aaron, que ses descendants seraient toujours en charge du sacrifice, donc qu'il y aurait toujours le sacerdoce à la maison de l'Éternel, va s'écarter de la maison d'Élie. Quand on lit le passage rapidement, on peut dire, mais écoute, Dieu a pris sa parole, il avait promis, puis là il dit, finalement je ne veux pas accomplir ma promesse. En fait, il accomplit sa promesse, mais ça ne passera plus par Élie. Aaron a d'autres descendants, mais ça ne passera plus par la famille d'Élie. Et même, il dit, même lorsque Israël va être béni, puis quand on lit le reste de l'histoire, Israël va être en croissance au niveau de la bénédiction, surtout quand le roi David va arriver, le roi Salomon. Mais il dit, ta maison, alors qu'Israël va être au milieu de la bénédiction, ta maison va rencontrer un adversaire même dans la maison même de l'Éternel. Le fait que tu sois sacrificateur et que tes fils soient sacrificateurs et tes petits-fils, ça ne sera plus une sécurité pour toi. Au contraire, même, ça va devenir une malédiction pour toi. Dans ta famille, plus personne ne va vivre vieux. Ils vont mourir dans la jeunesse, encore dans la force de l'âge. Et même, cette malédiction va continuer même après la mort d'Élie. Mais Dieu dit, pour que tu sois sûr, encore de ton vivant, que je vais accomplir cette malédiction-là, il y a un signe qui va survenir avant ta mort, c'est que tes deux fils vont mourir le même jour. Aïe, aïe, c'est sévère. Mais on comprend la gravité de la situation quand on pêche contre la sainteté de Dieu. Et ça va arriver, on va le voir dans les prochains chapitres. Dieu déclare aussi qu'il va s'établir, lui, un sacrificateur fidèle, qui va prendre sa place, la place d'Élie et de sa descendance. Contrairement à Élie, ce sacrificateur-là va marcher toujours devant Dieu, mais aussi devant son Messie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un lien fort qui est mis entre le sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur, et le roi. Pourtant, à ce moment-là, il n'y a pas encore de roi, là, mais c'est Samuel qui va oindre le premier roi, Saül. Mais à partir de ce moment-là, Dieu fait un lien. Puis on comprend plus tard, parce que le lien devient de plus en plus fort, là. Il y a un premier accomplissement qu'on peut voir en Samuel lui-même. Il est appelé à être prophète, mais il va jouer le rôle en même temps de sacrificateur. C'est lui qui va diriger le peuple jusqu'à ce que le roi arrive. Donc finalement, le pouvoir va être enlevé à la famille d'Élie et va être donné à Samuel. Plus tard, littéralement, les descendants d'Élie vont rester au sacerdoce, mais comme c'est annoncé, leur force va diminuer. Puis rendu à l'époque de Salomon, c'est Abiathar, il me semble, c'est un descendant de Élie, il va être tassé par Salomon. Et c'est Tsadok qui va être mis à la place, qui est aussi un descendant d'Aaron, mais d'une autre branche. Et je vais prendre 20 secondes pour vous dire ça, c'est intéressant quand même. Aaron a eu Il y a quatre fils qui sont mentionnés. Les deux premiers ont été tués parce qu'ils avaient apporté du feu étranger. Vous vous souvenez de ça? Ces deux autres fils, c'est Éliézer et Ithamar. Ithamar, je pense. Puis, Élie est un descendant d'Ithamar. Mais un fils de Éléazar, c'est Phinéas, qui a eu du zèle pour l'Éternel. Puis Dieu lui a fait une promesse. Il a comme renouvelé cette promesse-là à la maison d'Aaron, mais même plus fort que ça, sous la forme d'une alliance. Il dit, je conclue une alliance avec toi et ta descendance.
Wow!
Et le jour où un descendant d'Élie va être tassé, puis c'est Tzadok qui va être mis à la place, mais Tzadok, c'est un descendant de Phinéas, descendant d'Éléazar. Donc Dieu, finalement, fait concorder tout cela. C'est vraiment intéressant. Puis si on suit le fil, après le descendant de Tzadok, de père en fils, ça mène jusqu'au dernier sacrificateur qui est nommé au retour d'exil. Il s'appelle Josué. Puis même des prophètes parlent de Josué. Ils en font comme un personnage prophétique qui va revenir à la fin des temps. Et ce Josué-là, il va être un sacrificateur pour toujours. Il va même être couronné. Il va même être revêtu de la puissance. Puis Josué, la traduction, une autre traduction, c'est Jésus.
Wow!
Mais on voit que finalement, le sacrificateur par excellence que Dieu va établir, qui va être fidèle pour l'éternité, parce que Dieu dit qu'il va l'établir pour toujours. Ces expressions-là dans l'Ancien Testament, là, pour toujours, ça semble un peu exagéré. Dieu va promettre aussi à David, au roi David, qu'un de ses fils va être sur le trône pour toujours. Et comment un être humain peut être pour toujours sur le trône ou pour toujours au service? Mais cette tension-là se résout finalement dans le fait que c'est Jésus, qu'il est littéralement, pour toujours, éternellement, le roi, fils de David, et le souverain sacrificateur, pour toujours. Finalement, c'est même encore plus grand que ce qu'on pourrait s'attendre lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Les deux personnes qui sont supposées de marcher de plus en plus intimes, là, finalement, se trouvent être une seule personne, c'est Jésus, qui est à la fois le souverain sacrificateur et le roi. C'est tout à la louange du Dieu souverain. Et ce souverain sacrificateur-là, Jésus, il ne pêche jamais, il n'entraîne jamais le peuple à pécher, il est toujours parfaitement juste, il ne déshonore jamais Dieu. C'est pour ça qu'on doit se surveiller même à obéir aux commandements de Jésus autant que les commandements de Dieu. C'est les commandements de Dieu, en fait, ce que Jésus nous demande. C'est aussi solennel, important. Mais si nous sommes admis par la foi dans cette famille-là, pas dans la maison d'Élie, mais dans la maison de Jésus, mais finalement, nous serons bénis éternellement avec lui. Donc, le chant de Anne qu'on a étudié, c'était la semaine passée,
ouais,
qui parlait de la souveraineté de Dieu et qui parle du renversement aussi, des grands, des petits, des puissants, des pauvres, des humbles, et qui montre la justice de Dieu aussi. Mais on en voit un exemple directement ici dans la vie de Élie et de Samuel. Mais toute la Bible présente cette même puissance de Dieu-là, et c'est encore la même puissance et la justice de Dieu qui s'applique dans nos vies. C'est démontré dans nos vies, d'ailleurs. Et le contraste, Dieu va faire en sorte que le contraste va être évident dans nos vies entre les bons et les mauvais comportements. Dieu sépare la lumière des ténèbres, ça devient clair. Et il va aussi faire en sorte que les bons comportements vont être louangés, puis les mauvais vont être désapprouvés, condamnés. Puis, il va appliquer aussi les conséquences des bons comportements et des mauvais comportements. Heureusement, la grâce de Dieu fait en sorte que si on est couvert par le sacrifice de Jésus, il nous pardonne nos fautes, mais on peut quand même subir des conséquences de nos mauvaises actions pendant notre vie. Puis, en conclusion, le Nouveau Testament aussi nous... Parce qu'on peut se dire, ben nous, on n'est pas des prêtres comme Élie, là. Mais le Nouveau Testament nous dit que dans le contexte de l'Église, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous considère tous comme des prêtres. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres devant Dieu. Donc, nous avons tous le même devoir là, sacré là, d'être des représentants fidèles de Dieu et de ne pas entraîner nos frères dans le péché, d'être chacun de nous des exemples. Ce n'est pas seulement demander aux pasteurs, aux anciens. Ce n'est pas seulement demander aux parents envers leurs enfants. C'est demander à tout chrétien, membre du corps de Christ. Il nous demande d'avoir un comportement qui est digne de notre vocation de prêtrise, d'être reconnaissant à Dieu, de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, de ne pas être ingrat. Si on prend conscience des bénédictions de Dieu, si on compte les 10 000 sujets de louange et qu'on est reconnaissant, ça va nous pousser à vouloir lui obéir. Et on va chercher à être agréable à Dieu. C'est important, ça. Pas pour gagner notre ciel, là, mais pour avoir un comportement qui plaît à notre Dieu. On va chercher aussi à honorer Dieu, même quand il y a un prix à payer pour cela. Mais faisons appel à la grâce de Jésus qui est notre médiateur éternel. Amen.